Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, vos oreilles sont branchées sur l'AFP, vous écoutez Fragments d'Amérique, le podcast de la rédaction aux États-Unis. Je suis Lucie Aubourg, très heureuse de vous accompagner pour un cinquième numéro, enregistré en février 2019. Donald Trump n'a jamais de mots assez forts pour décrire l'immigration clandestine venue d'Amérique centrale. Pour lui, c'est un assaut, une invasion. Il a placé au cœur de sa politique une promesse phare, la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Pour débloquer le financement nécessaire, qui lui a été refusé par le Congrès américain, il a même décrété l'urgence nationale. Dans ce cinquième épisode, on vous emmène des deux côtés de la frontière, pour voir de près ce mur dont une grande partie existe en fait déjà. On suivra ces milliers de migrants en quête de rêves américains, ces militaires réquisitionnés pour poser des fils barbelés, et ces familles texanes qui verront les prochaines portions de mur érigées sur leur propre terrain. Fragments d'Amérique, épisode 5, au pied du mur, c'est parti.
President Donald J. Trump. The men who died, who gave that fight to me.
Not my president, not my president, not my president.
So that we can keep making America great again.
Yemely Ortega, bonjour.
Ah, bonjour, ça va?
Tu es reporter pour l'AFP au bureau de Mexico et en octobre, tu as suivi une caravane de plusieurs milliers de migrants qui avaient pour but de s'installer aux États-Unis. Ils venaient en majorité du Honduras, mais aussi du Salvador, du Guatemala et quelques-uns du Nicaragua. Qui étaient ces gens et pourquoi est-ce qu'ils ont pris la route?
La grande majorité, c'était des familles. C'est des gens qui fuyaient d'abord les conditions économiques extrêmement pauvres. Les gens n'arrivent pas à trouver un travail digne. Et ensuite aussi, il fuit la violence, l'extrême violence des gangs.
Et toi, où est-ce que tu as commencé à les suivre?
À la ville de Mexico. J'ai fait, on peut dire ça, la deuxième partie du voyage. Pour sortir de la ville de Mexico, le gouvernement a ouvert les portes du métro exceptionnellement à 4 heures du matin, un jour, pour que tout le monde puisse prendre le métro massivement, tous les migrants. C'était quelque chose qu'ils avaient fait pour la première fois de leur vie. Ils avaient peur et d'autres, ils étaient très, très excités à cette idée. Ils étaient extrêmement chargés, ils avaient tous des matelas, la couverture pour le bébé, un petit ourson, un peluche pour les petits. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à faire du stop. Donc, je me rappelle, ça m'a beaucoup marqué quand les enfants sont montés sur un camion qui normalement transporte des porcs. Et l'odeur était insupportable. Et quand ils sont descendus du camion, ils étaient tous pleins de poils. Il y avait d'autres camions qui étaient tous fermés sans aucune voie pour avoir de l'air.
Combien de kilomètres ils ont parcouru au total et en combien de temps?
Presque 4500 kilomètres depuis San Pedro de Sula. Et ils sont arrivés à Tijuana mi-novembre. C'était un tout petit peu plus d'un mois.
Dans quelles conditions ils étaient accueillis, les migrants à Tijuana?
C'était un centre sportif à quelques mètres de la frontière. Depuis le centre sportif, on voyait bien le mur. C'est à cet endroit-là que 7000 personnes sont arrivées, s'installer. Il y avait 9 douches, à peu près 25 toilettes. Il y a eu aussi beaucoup d'épidémies. Tout le monde, même les journalistes, on a été tous malades des voies respiratoires. J'ai eu la pire fièvre que j'ai eue dans toute ma vie. En plus, il faut savoir que ces gens-là viennent d'un climat assez chaud. Ils ne s'attendaient pas au froid de l'hiver. Beaucoup d'entre eux me disaient « Je pense que je suis malade parce que j'ai mal à la peau, j'ai mal aux os. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. » Je leur dis « T'as froid ?» Ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était ça.
Le 25 novembre, il y a un groupe de migrants qui a tenté de passer la frontière. Toi, t'étais où à ce moment-là?
Ils avaient dit qu'ils allaient faire une manifestation pacifique à côté de la frontière. Et tout d'un coup, quand on arrive, on voit des centaines de gens qui couraient et on ne savait pas où ils allaient. Mais d'une façon instinctive, j'ai choisi de ne pas y aller à la manifestation, mais de suivre ces gens-là. Donc j'ai couru après eux. Ils se sont très vite organisés. Les hommes ont commencé à crier « Les femmes, mettez-vous de côté avec les enfants !» Et tous les hommes ont commencé à monter sur le mur pour tirer avec leurs bras, de tout leur poids et toute leur force. Et ils ont réussi à le plier. Ils ont plié en deux un morceau des murs et c'est par là que tout le monde a commencé à sauter. Il y a deux murs, il y a un et puis il y a un autre parallèle. On avait les hélicoptères à quelques mètres sur nos têtes et ça faisait un genre de tempête de sable. Je voyais juste le sable du désert et les migrants qui marchaient dans une ligne vers le deuxième mur.
Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à aller au-delà du deuxième mur?
Oui, mais ils ont tous été arrêtés.
Et qu'est-ce qui s'est passé après? Finalement, les migrants ont rebroussé chemin, la plupart d'entre eux?
Oui, quand ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur, ils ne s'attendaient pas à ça. Et il y a beaucoup de femmes qui étaient en train de monter avec leur bébé sur le mur. Quand ils ont commencé à lancer les gaz, alors elles ont perdu l'équilibre, elles sont tombées avec leur bébé. Plusieurs d'entre elles ont été blessées, ils ont été vraiment intimidés.
On n'a aucun espoir, on est ici depuis plusieurs jours, je suis fatigué. Il n'y a aucun espoir de traverser, aucun.
Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des personnes humbles qui veulent simplement travailler et montrer au monde que nous sommes venus ici avec un cœur. Nous ne sommes pas le diable.
À quoi ils s'attendaient en fait une fois arrivés à la frontière?
Ils étaient très naïfs. Beaucoup d'entre eux n'ont pas eu d'escolarisation. Alors, ils n'ont pas dans la tête une carte pour savoir où se trouvent les États-Unis ou qu'est-ce que c'est les États-Unis. Pour eux, c'était juste une idée d'un certain paradis où il y aura du travail, il y aura la paix. Et quand ils ont vu que l'armée américaine était là, ils ont paniqué et ils m'ont demandé... Alors, il ne faut pas y aller vers les États-Unis. Dites-nous où c'est la porte pour aller au Canada. Et ça m'a envahi de tristesse parce que on voit à quel point les gens ne savaient pas où ils allaient. Aussi, beaucoup d'entre eux sont extrêmement religieux et à chaque fois qu'on leur demandait « Qu'est-ce qui vous fait tenir ?», tout le temps la réponse était « Dieu ». Dieu va faire en sorte que les portes des États-Unis tombent. Et aussi, il faut dire que dans leur chemin, il y a eu des obstacles qu'ils ont franchis. Ils sont venus depuis l'Honduras. Il a fallu traverser les frontières pour arriver à Guatemala. Après ça, ils ont fait tomber les frontières du Mexique. Ils se sont dit, si on a pu faire tomber les autres frontières, on va y arriver à faire tomber les frontières des États-Unis.
Et alors par la suite, ces milliers de personnes, qu'est-ce qu'elles sont devenues?
Beaucoup d'entre eux ont demandé la répatriation. D'autres ont commencé à faire leurs papiers pour avoir un visa humanitaire au Mexique. Et d'autres, ils ont traversé le désert comme d'habitude, c'est-à-dire avec des trafiquants des personnes jusqu'aux États-Unis. Et d'autres, une très petite partie d'entre eux, ont commencé la procédure des demandes d'asile.
Léonore Sens, bonjour.
Bonjour.
Tu es reporter vidéo au bureau de l'AFP à Washington et ces dernières semaines, tu t'es rendue deux fois plusieurs jours en mission au Texas pour des reportages sur le thème de l'immigration. Et tu as notamment été à Laredo, une ville aux États-Unis qui jouxte Nuevo Laredo au Mexique. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance là-bas ?
Tout à fait. Laredo, c'est deux villes jumelles qui sont séparées uniquement par le Rio Grande, qui est la frontière naturelle entre les États-Unis et le Mexique. Plus de 90% de la population est hispanique. Ça parle espagnol là-bas beaucoup plus que ça parle anglais. Et la ville dépend des échanges entre les deux pays pour pouvoir vivre. D'une part, il y a 17 000 personnes qui traversent à pied la frontière chaque jour. Les petits commerçants locaux de Laredo aux États-Unis dépendent des Mexicains qui viennent faire leurs achats. Deuxième revenu économique pour Laredo, qui est alors là encore plus important, c'est le port d'entrée terrestre de la ville, qui est en fait le plus grand port d'entrée commercial des États-Unis, où chaque année transitent, je crois, 200 milliards de biens commerciaux.
Et alors, je crois que vous avez rencontré le maire de cette ville sur l'immigration. Quel est son point de vue ?
Effectivement, on a rencontré le maire de Laredo, un maire indépendant. Il n'est ni républicain, il n'est ni démocrate. Il n'est pas pour l'ouverture des frontières totales. Il n'est pas non plus pour la fermeture. Il est contre un mur physique. Et lui, ce qu'il demande, c'est plus de technologie. Très concrètement, un des arguments du mur de Trump, c'est la drogue qui passe à la frontière. Si on regarde les statistiques, la drogue, elle rentre principalement par les ports d'entrée légaux. Et ce que le maire de Laredo demande, c'est plus de moyens technologiques et humains pour pouvoir filtrer ces passages et pour pouvoir saisir la drogue. Pour lui, un mur, c'est pas une solution. Pour pouvoir aller dans le sens de Trump, il dit qu'il nous faut un mur virtuel, des technologies.
Vous avez aussi parlé à pas mal de gens, j'imagine, dans les rues de Laredo, etc. Quels sont, eux, leurs points de vue sur la rhétorique anti-immigration de Trump ?
Étonnamment, on a reçu des sons de cloche assez variés. Et on ne pensait pas tomber sur des hispaniques qui seraient pour le mur, mais il y avait pas mal de gens qui soutenaient l'idée de faire un mur à la frontière. Les gens qui sont pour le mur, ils ont toujours ce même argument, il faut rentrer de manière légale aux États-Unis. Il faut quand même souligner sur cet argument-là que 2/3 de l'immigration illégal aux États-Unis aujourd'hui, ce sont des gens qui sont rentrés légalement et qui ont laissé périmer leur visa et qui sont restés aux États-Unis. Donc l'entrée à pied par la frontière sud des États-Unis, ça représente seulement 1/3 des présences sur le territoire de manière illégale.
Et tu t'es aussi rendu à McAllen au Texas. Qu'est-ce qui t'a marqué sur place ?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à McAllen, il y a des petites portions de murs qui existent déjà. Moi, j'ai vu plusieurs petites portions de murs. Il y en a une assez longue qui en fait est sous un pont, elle longe le Rio Grande. J'ai aussi vu une barrière métallique, qui sont des très grands poteaux très hauts qui font plusieurs mètres de haut et qui sont assez resserrés.
En fait, Trump dit souvent « on va construire un mur, je veux un mur », mais le mur finalement il existe déjà.
Une énorme partie de la frontière est déjà barricadée physiquement. Il y a 1100 km de murs qui existent déjà, principalement à l'ouest des États-Unis, parce qu'il n'y a pas le Rio Grande qui fait cette barrière naturelle. Et ça a été construit depuis 2006, donc entre autres sous les années Obama. Mais les bords de frontières, c'est souvent énormément d'agents de patrouille aux frontières. On peut être sûr qu'on ne fait pas quelques mètres sans voir une voiture d'agents de patrouille aux frontières. Il y a au total 16 000 agents de patrouille le long des 3000 km de frontières américains. Et ils ont les technologies derrière pour détecter des mouvements le long de la frontière.
Thomas Watkins, bonjour.
Bonjour.
Tu es reporter à Washington et tu es chargé de suivre le ministère américain de la Défense. En octobre, Trump a décidé d'envoyer plus de 5000 militaires à la frontière. Tu es donc allé les voir au Texas. Que faisaient les militaires concrètement sur place ?
Quand on est arrivé, on a vu presque une soixantaine de militaires, des jeunes soldats. Ils ont posé des bobines de fil barbelé partout sur la rive. Et ça allait aussi loin qu'on pourrait le voir.
Est-ce que les soldats étaient contents de faire ça et est-ce qu'ils en voyaient l'utilité ?
On avait un officier qui était à côté de nous tout le temps. Donc les entrevues qu'on a faites étaient assez tendues. Les jeunes soldats étaient un peu comme des robots. Ils pourraient juste dire « yes sir, no sir », des phrases super rigides. Pendant ces interviews, ils diraient « je suis content de faire mon devoir pour mon pays, je suis content de faire ma mission ». Mais en dehors des interviews, ils étaient un peu moins tendus. Quelques-uns m'expliquaient que c'était pas pour ça qu'ils se sont engagés dans l'armée. Ils ont pensé que c'était franchement une perte de temps.
Sur place, ils n'étaient pas tout seuls, les soldats. Il y avait aussi d'autres forces de l'ordre.
Leur mission est de renforcer les gardes frontières. Ils n'avaient pas, et toujours ils n'ont pas, le droit d'avoir de contact direct avec les migrants. Ils n'ont pas le droit d'interpeller les migrants. Leur rôle est vraiment de supporter les gardes.
Comment la population les accueillait sur place?
Il y a un grand soutien aux États-Unis pour l'armée, pour les militaires. Un des officiers m'expliquait que quelques citoyens, parfois, ils leur apportaient des gâteaux, de l'eau. Au contraire, sur l'autre côté de la rivière, ce n'était pas quelque chose que j'ai vu moi-même, mais apparemment, les gens là-bas, ils hurlaient les insultes aux soldats américains. Même ils jetteraient les bouteilles sur les soldats.
Est-ce que cette barrière de barbelés, finalement, elle a été utile?
Non, parce qu'en fait, on pourrait marcher à la fin de la barrière. Ça a extendu jusqu'à 2 kilomètres dehors de la ville. Et il a dû arrêter parce qu'il y avait un parc naturel. Donc, il n'avait pas le droit de mettre le barrière là-bas. Le barrière barbelé était censé arrêter les caravans. Mais au bout du compte, les grands caravans ont passé par Tijuana et San Diego en Californie. Donc après quelques jours, quelques citoyens de Laredo, ils ont exprimé au maire qu'ils étaient très fâchés avec le grand barrière barbelé qui avait l'air d'une prison en fait. Et après 3 semaines, l'armée est revenu pour retirer ce qu'il vient de faire. Donc maintenant, si tu visites Laredo, c'est comme si l'armée n'était jamais là-bas.
Combien ça a coûté à l'armée d'envoyer les militaires à la frontière?
Au début, c'était censé coûter 15 millions. Mais maintenant, la mission a été prolongée jusqu'à presque un an. Ça va coûter quelques centaines de millions de dollars.
Au moment où Trump a envoyé les militaires à la frontière, on était dans un contexte électoral, parce qu'on était juste avant les élections parlementaires de mi-mandat, dans lesquelles Trump s'est beaucoup impliqué. On peut dire qu'il utilise l'armée de façon politique ou à des fins politiques?
Absolument, oui.
Est-ce que l'armée est à l'aise avec ce rôle politique qui lui a été donné?
À la département de la défense, au Pentagon, il y a une ligne assez nette entre la vie politique et la militaire. Cette mission-là, c'était évident que c'était une décision politique que Trump a prise. Les officiers n'étaient pas trop contents, mais ils ne pourraient pas dire ça parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur le point de vue politique.
I want people to come into our country.
Je veux que les gens viennent dans notre pays plus nombreux que jamais, mais ils doivent venir légalement. De riches politiciens et donateurs poussent pour ouvrir les frontières tout en vivant derrière des murs, des barrières et des gardes de sécurité. Au même moment, les travailleurs américains doivent payer le prix de cette immigration illégale massive. La tolérance pour l'immigration illégale n'est pas bienveillante. Elle est en réalité très cruelle.
L'an dernier, en mars 2018, Trump a réussi à débloquer 1,6 milliard de dollars pour pouvoir financer une partie de son mur. Effectivement, il y a une partie du mur qui est en projet. Et donc, nous, on est allés rencontrer des personnes sur place, dont les terres privées sur lesquelles on va construire un bout du mur. Donc, on a rencontré Fred Cavazos, qui a hérité de sa grand-mère d'un terrain qui longe le Rio Grande. Pas de chance pour lui, c'est la frontière avec le Mexique. Et comme on ne va pas pouvoir construire dans la rivière, eh bien, l'État est venu le voir pour lui demander de faire des études de terrain parce qu'ils veulent construire une partie du mur chez lui. Son terrain va se retrouver entre un mur et le Rio Grande, donc une espèce de no man's land entre deux pays. Et c'est un monsieur qui est vieux, il a bientôt 70 ans, il est très handicapé. Et lui, sa seule source de revenus, c'est les petits loyers, parce qu'en fait, il loue des petits cabanons le long de la rivière à des gens. Et ils ont décidé d'attaquer l'État. Donc, les premières étapes, c'est de dire qu'ils ne veulent pas que les études soient faites. Ils veulent en tout cas contester en justice cette construction du mur chez eux. Alors, ils savent que contre l'État, on ne peut pas faire grand-chose. Mais eux, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que leur seul espoir, c'est d'essayer de faire traîner ça en justice jusqu'à ce qu'une autre administration arrive à Washington et puisse éventuellement faire annuler le projet. En attendant, pour ces gens-là, c'est des conséquences très concrètes. Un mur, ça risquerait d'isoler leur propriété, une source de revenus. Et pour eux, quand on leur demande s'il y a une crise à la frontière, très clairement, leur réponse, c'est non, il n'y a pas de crise.
Sylvain Estibal, bonjour.
Bonjour.
Tu es le directeur du bureau de l'AFP à Mexico. Concernant l'immigration clandestine, il y a 400 000 personnes qui franchissent chaque année illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique. En 2016, aux États-Unis, il y avait 10,7 millions d'immigrés sans papiers. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est le chiffre le plus bas depuis 2004. Un autre plan de la politique migratoire de Trump, c'est de restreindre les procédures de demande d'asile. Il a annoncé le plan « Rester au Mexique ». Est-ce que, Sylvain, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est concrètement ce plan ?
Donc, c'est un plan qui s'adresse à tous les migrants qui déposent une demande d'asile aux États-Unis. Jusqu'alors, ils restaient aux États-Unis jusqu'à ce que le tribunal statue sur leur cas. Maintenant, Trump veut qu'ils retournent côté mexicain le temps que leur demande soit traitée. Et ceux-là, donc, ont commencé à être reflués en côté mexicain, à Tijuana, où là, ils sont pris en charge par les autorités locales qui les mettent dans des refuges et voilà, en attendant que leur statut soit tranché par les autorités américaines.
Ici, Donald Trump a déclaré l'urgence nationale pour obtenir plus de financement pour son mur, donc à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Côté mexicain, qu'est-ce qu'on pense de ce projet de mur ?
Déjà, il y a la fierté de ne pas avoir cédé, parce qu'au début, ils voulaient que le Mexique paye. Donc finalement, le Mexique n'en va pas payer. Après, le mur, je crois que tout le monde dit, vu la dimension de la frontière et la géographie, je crois que les gens pensent plutôt, s'il veut faire son mur, qu'il le fasse, mais ça ne changera pas grand-chose finalement au problème. On a vu, ils peuvent passer par-dessus un mur, et puis dans le désert, c'est des zones tellement hostiles qu'il y a un mur ou pas, de toute façon, il n'y a pas grand monde pour surveiller, et puis ils pourront toujours passer, traverser, enfin, ça effraie pas grand monde, et tout le monde se dit, c'est de l'argent un peu balancé par la fenêtre. Hein.
C'est la fin de cet épisode 5. Un grand merci à Yemeli Ortega, Sylvain Estibal, Éléonore Sens et Thomas Watkins pour leur éclairage. Merci à Brigitte Dussault, Hervé Rouache et Sébastien Blanc pour leur soutien. Et à Antoine Boyer qui a conçu avec moi ce 5e numéro. À très bientôt pour de prochains Fragments d'Amérique.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.